Alors pour cette interview qui va dans notre émission L'Auberge Espagnole, je reçois Nadia Lichtich. Alors elle est déjà venue dans nos studios, mais c'était dans le cadre des portraits que l'on fait d'artistes européens qui irradient notre métropole de Montpellier. Alors en deux mots, Nadia Lichtich vient de Munich en Allemagne à l'origine, mais elle est aussi originaire de pays slaves, je dirais, hein, puisqu'il y a de la Serbie, si je me souviens bien, il y a beaucoup de la Tchécoslovaquie de l'époque, la Tchéquie maintenant et la Slovaquie. Donc vous êtes vraiment une Européenne, on peut dire. Et vous habitez à Montpellier, et vous travaillez à Montpellier. On va vous laisser nous présenter un petit peu un certain nombre de vos œuvres, et puis on va aussi en écouter, je crois.
Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir que je fais ce petit portrait, déjà l'autre jour. Alors oui, en effet, je suis européenne, je suis allemande, mais pas seulement, et je suis effectivement montpelliéraine de choix. Donc, je vis ici depuis une bonne dizaine d'années et je me plais d'habiter ici et de partir dans de divers expos.
On peut penser à Berlin notamment, vous allez à Berlin assez souvent,
oui,
je crois.
Hein. Oui, bah, je vais très souvent en Allemagne. Je pars mercredi, par exemple, de nouveau pour une expo, cette fois-ci à Munich.
À Munich.
Et je suis née à Munich, sachant que c'est quasiment la première fois que j'expose à Munich.
Vous savez, c'est souvent le cas. Hein. Oui. Les artistes, ils sont de quelque part, et puis ils font le tour du monde. Et puis tout d'un coup, ils disent, tiens, j'ai jamais mis une exposition dans mon lieu de naissance.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis aussi un peu née par hasard à Munich, il faut dire, parce que mes parents ne sont pas allemands. Et c'était pour des raisons purement... pour des raisons de travail, en fait, qui s'est trouvé là, parce qu'ils se sont connus en Angleterre. Et puis, voilà. Bon, le hasard a fait que je suis née à Munich. Mais voilà, ce qui m'intéresse quand même avant tout de mon travail, c'est effectivement ce naviguer entre, le entre-deux. Donc, je grandis entre plusieurs langues, comme vous l'avez déjà dit. Oui. Donc, de pays...
On parlait quelle langue dans votre famille?
Alors, ma grand-mère est hongroise.
Hongroise, donc c'est encore une langue de l'Est.
Oui, et ma mère est née à Budapest. Après, elle a grandi en Tchécoslovaquie.
À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie, bien
voilà,
sûr.
Voilà, et mon père, il a grandi en Yougoslavie.
À l'époque, c'était la Yougoslavie, vous voyez, ça a changé.
Et je tiens à ce terme parce qu'ils ont vraiment grandi dans ces pays-là. C'est-à-dire que ce n'est pas la Serbie ou la Tchéquie.
Hein, c'est la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.
Voilà, qui ont quand même eu des idées comme ça, de rassembler, de partager des idées. Et donc ça, c'est des pays qui n'existent plus aujourd'hui, mais les langues, effectivement, subsistent. Et l'allemand est une langue qui, par ailleurs, est de famille aussi, hein, c'est-à-dire de longue date. Donc je grandis entre plusieurs langues, donc parlons pas du français, qui était aussi parlé dans ma famille, enfin qui est parlé aussi, et puis l'anglais, évidemment.
Alors, et ça en fait des langues, hein, ça en fait des langues.
Ouais,
ça devait être quelque chose que des fois, vous passiez d'une langue à l'autre.
Oui.
Oui, comme tous les gens qui ont plusieurs langues, hein, ils ont tendance à... Ils commencent une phrase des fois dans une langue et la terminent dans une autre. Moi, je connais ça aussi dans ma famille avec les franco-espagnols.
Voilà. Oui, voilà. Oui, et d'ailleurs, ma sœur est mariée en espagnol et ça continue de ce côté-là.
Voilà, oui. Mais vous êtes vraiment l'archétype de l'européenne, hein, comme je dis, vraiment. Ouais. L'européenne, mais mondialisée, hein, puisque vous partez aussi au Canada, je crois.
Oui.
Vous voyagez à travers différents pays du monde.
Oui, c'est vrai que là, les derniers temps, les dernières 4 années, je suis beaucoup partie au Canada. Mmh. Il y avait plusieurs expositions qui ont lieu et qui sont liées à la recherche en astrophysique, qui est un domaine qui est d'ailleurs aussi quelque chose qui existe dans ma famille et qui, pour laquelle je me passionne pour des raisons artistiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce rapport
au cosmos, à ce qui nous entoure. Et puis, c'est tellement beau. Hein. C'est beau.
Oui, hein. Oui.
Quand on voit les images qui nous arrivent des télescopes, vous avez
incroyable.
Vu.
Incroyable. Les derniers, là.
C'est absolument incroyable. Ouais. Et pour une artiste comme vous, qui est plasticienne aussi, hein, faut pas l'oublier. Donc, ça doit inspirer. Hein.
Oui, effectivement, il y a une série qui s'appelle Headless Dark Matter et qui est inspirée concrètement de ça. Mais c'est vraiment inspiré de la recherche physique.
La fameuse, célèbre matière noire.
Donc j'étais invitée par un curateur qui, le hasard a fait qu'il était venu, il est venu me voir ici à l'atelier à Montpellier. Donc je suis allée voir une conférence à la Panacée. C'est une jeune curatrice du Canada qui a parlé, qui a beaucoup parlé de First Nations. Ça m'a beaucoup intéressée parce que en France ou en Europe en général, il n'y a pas encore ce rapport aux arts, on va dire, d'autres ethnies qui sont aussi mêlées à l'art contemporain.
Oui, donc, et les arts premiers, on pouvait dire aussi, comme on a à Paris, au Quai Branly, par exemple, c'était Jacques Chirac, notre ancien président, qui avait voulu qu'il y ait un musée d'art premier. Mais nous, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'art contemporain, c'est que maintenant, alors qu'en fait, il est contemporain. Au moment où il est arrivé.
Complètement. Alors, vraiment, le rapport à l'art contemporain est très différent au Canada. Donc, ça m'a frappée. À l'époque, je montais une exposition à la Maison Heidelberg. Je fais plusieurs expositions où j'invitais des artistes allemands parce que j'avais envie qu'ils viennent à Montpellier.
Ben oui, vous leur montrer un peu là où vous habitiez.
Oui, peut-être aussi, je me sentais peut-être un peu seule à ce moment-là. Voilà. Donc, j'ai invité pas mal d'artistes à exposer à la Maison Heidelberg pour plusieurs expositions. Et donc, cette jeune Canadienne est venue aussi, parce que le hasard a fait que l'expo était à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, j'ai eu cet appel de ce curateur, Sénéquer, qui est venu me voir pour m'inviter à une exposition. Donc, il est venu du Canada. Il avait entendu parler par cette jeune fille de ce que je fais. Et je lui avais montré ces petites peintures que j'appelle Dark Matter, donc, qui sont portées sur la matière noire. Et donc, il m'a invité à aller 2 kilomètres sous terre. Au Canada, à un lieu qui s'appelle Snow Lab. Et donc, on était 4 artistes. Donc, il y a un Anglais, une Canadienne, First Nations, et une franco-sénégalaise et moi-même qui ont eu cette chance-là. On est allé dans une mine à 2 kilomètres sous terre. Et là, on était avec des mineurs, hein, eux qui sont 3 km sous terre. Hein, donc, c'est un ascenseur très primitif qui nous amène. C'est vraiment très impressionnant.
C'est comme on disait les fosses. Les fosses, on disait ça quand on descendait dans les fosses, dans le nord de la France, par exemple.
C'est ça. Enfin, il fait très chaud. Il y a une forme de claustrophobie quand même.
Il y a une pression. Pression de la terre.
Oui. Et donc, c'est très poussiéreux. Et après 20 minutes de marche, comme ça, sous terre, on arrive à un laboratoire où c'est tout le contraire. C'est sans poussière. Tout est...
aseptisé.
Oui, donc il faut se doucher plusieurs fois. On ne porte pas ses propres vêtements. Même le téléphone portable, tout est désinfecté. Et on arrive dans un lieu où on mesure des neutrinos. Donc, les neutrinos, c'est des particules qui peuvent traverser la roche. Et donc, on les utilise notamment pour faire des recherches sur l'énergie noire et sur la matière noire.
Sur la matière noire. Écoutez, si vous voulez bien, on va faire une toute petite pause après ce départ d'interview qui a l'air infini, comme l'univers, quoi qu'on dise que c'est infini fermé. Ce qui est assez curieux quand même, hein, mais un infini fermé. Eh bien, on va marquer une petite pause, mais on va quand même rester avec vous. Alors avec vous, mais pas qu'avec vous, dites-nous un peu ce qu'on va écouter là.
Alors j'ai envie de vous faire partager trois pièces sonores qui sont deux collaborations et une que je fais un lien avec le projet dont je vous ai parlé des frottages.
Oui.
Donc le premier c'est Echo Park et Birdwatcher, c'est une chanson, c'est dreamy, qui parle de ce rapport de langue, hein, donc, dont on en parlait plus tôt.
Oui.
Puis la deuxième, c'est le projet False Park Location que je fais avec Christian Bujou et qui est un projet plus pop, aussi pop, parce que Echo Park l'est aussi. Et là, c'est un morceau qui s'appelle B15G et qui parle d'un iceberg qui dérive dans l'Arctique. Et donc, pour vous montrer un peu que autant avec la musique qu'avec les avec les arts plastiques, c'est quand même beaucoup de choses qui me viennent de l'extérieur, qui m'inspirent. Hein, donc, que ce soit des sciences ou de l'histoire.
Ou l'écologie, on peut dire, etc. Ben écoutez, on va écouter alors.
Oui.
Hein, c'est le mieux, hein, on va écouter.
I'm writing while you're watching the sky.
sounds, I hear sounds, these sounds enter my writing. They make me drunk in a state of drunkenness. They follow up the air. They come up within a melody. Drunk and I, no language is yours.